France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
À l'approche d'Halloween, on se penche sur un des plus grands prédateurs au monde. Carnivore, parfois cannibale, sa seule évocation en fait frémir plus d'un, l'araignée, et on détricote quelques idées reçues. Avec 53 000 espèces recensées, elles ont conquis un grand nombre de niches écologiques. Elles sont présentes partout, sauf en Antarctique et en très haute altitude. Essentielles aux écosystèmes, elles régulent les populations d'insectes. Pourtant, contrairement aux abeilles ou aux fourmis, on sait peu de choses sur ces animaux à quatre paires de pattes, qui inspirent l'effroi chez un quart des Européens. Largement inoffensives, on entend souvent l'argument « mais ce sont elles qui ont plus peur de nous ». Et bien justement, que sait-on de la cognition des araignées, elles qui vivent dans un monde de vibrations si difficile à concevoir de notre point de vue? Araignées nées sous une bonne toile. Christine Rollard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aranéologue, attachée honoraire au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Nous sommes en ligne également avec Raphaël Janson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éthologue, directeur de recherche au CNRS et directeur adjoint du Centre de Recherche sur la Cognition Animale à Toulouse. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici en direct dans nos studios à France Culture et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez nous écouter sur l'appli Radio France et vous pouvez aussi nous écouter en nous suivant sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous de nombreuses ressources. C'est à retrouver sur notre compte @sciencesqfd. Alors, qu'est-ce que sait-on exactement de leur biologie et de leur comportement? Quel rapport les araignées entretiennent-elles avec leur milieu et à quoi ressemble leur monde sensoriel? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, pourquoi sont-elles si mal aimées? C'est notre archive du jour.
Les araignées sont beaucoup plus nombreuses qu'on pense, car on a souvent en vue que quelques espèces vivant dans nos maisons ou dans les jardins. En fait, on en connaît au moins 1500 espèces en France, dûment cataloguées. Et notre pays, bien qu'ayant des climats variés, n'a qu'une relativement faible superficie. À mesure qu'on va vers les tropiques, leur nombre augmente, comme celui des insectes. Aussi n'est-il pas étonnant d'apprendre que 25 000 à 30 000 espèces sont connues. Mais il en est bien d'autres à découvrir, car l'exploration biologique de la Terre est loin d'être achevée. C'est ainsi qu'un seul voyage de 2 mois en Afrique occidentale française nous a fait dénombrer 5 fois plus d'araignées qu'il n'en était connu auparavant. Aussi peut-on estimer au moins à 150 000 le nombre d'espèces d'araignées existant à la surface du globe. Et ce chiffre est peut-être au-dessous de la réalité.
Voilà un extrait de l'émission Heure de culture française diffusée sur la RDF en 1959. Christine Rollard, voilà, si nombreuses, si mal connues, ça c'est un effet de l'arachnophobie ou en tout cas de l'effroi qu'elles peuvent susciter?
Je pense effectivement que ça joue, hein, de toute façon, par rapport à ces animaux qui sont souvent mal aimés, mal perçus, avec une méconnaissance complète, avec des gens qui n'ont pas beaucoup étudié ce groupe-là, hein, c'est les araignées. Comme on l'entendait dans les archives, c'est intéressant d'avoir les chiffres, justement, puisqu'on est à plus de 53 000 espèces à l'heure actuelle. Était évoqué en 1959, hein, vous vous rendez compte, que 150 000 espèces pouvaient effectivement exister, et effectivement, on dit qu'il y en a autant, si c'est pas 10 fois plus, à décrire à l'heure actuelle. Donc il y a vraiment une méconnaissance. Et puis, en Occident, c'est vrai que souvent, elles font peur, pas partout dans le monde, hein. C'est vraiment une peur qui est assez occidentale et culturelle, mais il y a aussi cet effet par rapport à cette méconnaissance du groupe des araignées si diversifiée.
Raphaël Janson, votre réaction, vous aussi, à l'écoute de cette archive?
Même si le nombre d'araignées a augmenté depuis les années 50, avec toute une série de caractéristiques des araignées qui demeurent largement méconnues, on a encore beaucoup de choses à apprendre sur leur biologie et sur leur comportement.
On a beaucoup à apprendre et on va voir justement comment se caractérise leur biologie. Mais je reviens sur cette mauvaise réputation. La peur des araignées, c'est avec l'acrophobie, la peur du vide, et l'ophiophobie, la peur des serpents, l'une des phobies les plus répandues. Elle concernerait entre 4 à 6% de la population mondiale. Alors comment, Raphaël Janson, comment ça s'explique cette peur généralisée, en tout cas du côté en Occident?
C'est vrai que ce qui est assez surprenant, c'est que la peur des araignées est surtout ancrée dans les civilisations occidentales. Et on peut la dater du début du Moyen-Âge, où dans certains bestiaires, on peut voir que les araignées sont associées au diable, qui vont s'emparer de l'âme humaine. Et ça, ça a certainement participé à la peur des araignées qui s'est transmise de génération en génération jusqu'à l'époque contemporaine.
Christine Rollat.
Oui, tout à fait. J'acquiesçais aussi à ce que disait Raphaël. Et puis, bon, il y a aussi toute une complexe, tout un complexe de croyances en dehors effectivement de cette période par rapport aux transmissions de maladies, par rapport à tout un tas de choses comme ça. Et puis des animaux qui sont perçus comme sombres, nocturnes, se déplaçant vite. Enfin, il y a quand même un certain nombre d'éléments et de caractères qui sont mal perçus dans l'esprit des humains.
Alors en ce moment, c'est l'automne, on dit souvent que c'est la saison des araignées, Christine Rollat. Est-ce que c'est vrai ça?
Non, c'est faux. Il n'y a pas de saison en fait pour les araignées, puisqu'on les rencontre à toute saison, toute l'année, dans tous les pays du monde. Mais chez nous, on rencontre et on voit un peu plus certaines espèces à l'automne. On pense qu'elles rentrent dans nos habitations parce qu'il fait froid, ce qui est aussi faux. Elles étaient déjà souvent présentes, mais une espèce est en période de reproduction. Donc les mâles sont un peu plus errants, on les voit un peu plus dans nos habitations à la recherche de femelles. Et c'est pour ça qu'on a cette déviance par rapport à la perception du nombre d'araignées et de leur fréquence par rapport à cette période.
Raphaël Jourson, j'ai aussi entendu dire que les araignées automnales seraient de plus en plus grosses, que le réchauffement climatique accélérerait leur croissance. Ça aussi, c'est de la légende urbaine.
Oui, et puis en lien avec ce que disait Christine, une étude de sciences participatives menée en Angleterre il y a quelques années avait demandé aux participantes et participants de recenser les araignées dans les habitations. Mmh. Et il y avait un pic de présence détecté au mois de septembre-octobre, et surtout à 19h le soir, quand les habitants revenaient dans leurs habitations. Donc ça participe aussi de ce sentiment d'une abondance plus importante des araignées à l'automne, qui effectivement n'est pas vrai.
De la même façon qu'on n'avale pas d'araignées durant notre sommeil à notre insu, ça aussi c'est une autre légende urbaine. Par contre, en revanche, quelles sont les espèces qu'on croise chez nous, dans notre appartement ou dans notre maison, Christine Rollat?
Alors, il y a une dizaine d'espèces assez fréquemment vues dans les habitations ou des dépendances, avec des comportements, des biologies qui sont différentes, des cycles quelquefois aussi qui sont différents, parce qu'il y en a qui ont une activité plutôt nocturne et d'autres plutôt diurne. Donc, quand je dis ça, quelquefois, il y en a qui commencent à paniquer un petit peu, mais c'est tout à fait normal. Et les espèces qu'on peut trouver dans nos habitations, on peut également, pour la grande majorité d'entre elles, les retrouver à l'extérieur, mais toujours dans des endroits qui sont des endroits abrités. Il faut se remettre à l'échelle de ces animaux. C'est beaucoup plus petit que nous. Et ce qu'il leur faut à ces espèces-là, qu'on retrouve effectivement dans des milieux abrités, c'est un endroit, un micro-habitat, un micro-lieu qui leur permettent d'être abrités. Donc elles vont retrouver ça aussi à l'extérieur, dans des troncs d'arbres, sous des écorces, etc. Donc il faut pas non plus se dire, ces espèces-là n'habitent que chez nous, quoi. On n'a pas de chez nous, entre guillemets, on a que des colocataires aussi, qui quelquefois ne sont pas visibles.
Raphaël Jourson, sur ces espèces avec lesquelles nous cohabitons, nos colocatrices.
Alors il y a une espèce d'araignée à laquelle on prête pas souvent attention, qui sont les folques, ces petites araignées que certaines personnes confondent avec des faucheux, qu'on trouve souvent suspendues au plafond, et qui sont des araignées qui sont invasives, qui sont arrivées d'Asie il y a 200 ou 300 ans, et qui ont colonisé toutes nos habitations, et qui sont beaucoup plus discrètes que les grosses araignées noires auxquelles on pense, mais qui font aussi partie de nos colocataires, comme le disait Christine.
Tout à fait. Elles sont mal perçues d'ailleurs aussi quelquefois, alors que souvent c'est des phobies autour des grosses tégénaires, grosses, c'est 1,5 cm, 1,8 cm de taille de corps. Mais les folques sont quand même perceptibles, souvent au plafond, et c'est les premières recolonisatrices d'habitations qui ne sont pas souvent fréquentées.
Alors justement, vous dites on a tendance à les confondre avec ces faucheux. Raphaël Jourson, sur ces 53 000 espèces, c'est les arachnides, c'est une classe qui comprend un très grand nombre d'animaux, mais quels sont, en termes morphologiques, quels sont leurs critères distinctifs à elles?
Alors, une des caractéristiques des araignées est le fait qu'elles aient donc 4 paires de pattes, généralement 4 paires d'yeux, et que toutes les araignées font usage de la soie, donc ça on en reparlera un peu plus tard, mais c'est vraiment une caractéristique propre au groupe des araignées.
Elles font toutes de la soie, mais elles font pas toutes nécessairement, Raphaël Jourson, d'étoiles.
Non, il est estimé qu'environ 50% des araignées vont tisser des toiles, mais pour autant, toutes les autres espèces, qu'elles soient errantes ou utilisant des toiles, que ce soit des mâles ou des femelles, vont utiliser la soie à un moment ou à un autre de leur cycle vital.
Christine Rollat, on a une grande diversité d'espèces, mais on voit que les araignées sont quand même assez homogènes d'un point de vue morphologique.
Oui, tout à fait. Et pour reprendre un petit peu justement cette classification, les araignées font partie d'une grande classe, les arachnides, et dans les arachnides, avec les caractéristiques qu'a donné Raphaël, les deux parties dans le corps, les 8 pattes, et à l'avant des organes qui leur permettent de capturer, d'injecter leur venin, les chélicères, les scorpions, les acariens, les faucheux ou opilions ont également ces caractéristiques-là.
Alors comment, Raphaël Jonceau, comment ça se passe du côté du cycle de vie d'une araignée?
Eh bien, à un moment, il y a l'accouplement entre le mâle et la femelle. Donc, les stratégies de reproduction chez les araignées sont tout aussi fascinantes les unes que les autres, où le mâle, parfois, déploie des trésors d'ingéniosité pour pouvoir séduire la femelle et copuler sans risque de cannibalisme. Et donc là, il y a vraiment des choses qui sont tout à fait remarquables. Et ensuite, une fois que la femelle a été fécondée, elle va pondre un cocon qui, selon les espèces, va contenir de quelques 2, 3, 10, une dizaine d'œufs jusqu'à plusieurs centaines d'œufs. Et dans le cocon, les jeunes vont éclore et ensuite émerger du cocon, rester grégaires et tolérants les uns envers les autres pendant quelques jours, semaines ou mois selon les espèces. Et ensuite, pour la plupart des espèces, la grande majorité, se disperser pour mener une vie solitaire.
Cette vie solitaire, Christine Rollard, combien de temps l'espérance de vie, c'est pour une araignée?
En moyenne, la majorité des araignées dans le monde, c'est un cycle annuel. Donc c'est 1 an, voire 2 ans. Après, il y a quelques espèces qui vivent 3 ans, d'autres qui vivent une dizaine d'années. Et puis, la longévité la plus importante qu'on ait observée, c'est une vingtaine d'années dans des conditions naturelles. Donc effectivement, la moyenne pour toutes les araignées du monde, c'est un cycle annuel.
Là, Raphaël Jonceau, vous évoquez leur reproduction. On a chez les araignées des rituels, des parades nuptiales. À quoi ça ressemble une parade nuptiale d'araignée?
Alors ça va être très variable selon les espèces, mais il y a une espèce que l'on trouve en France hexagonale, qui, chez laquelle le mâle va porter un cadeau nuptial à la femelle. Et donc la femelle va dépiauter ce petit cadeau, et tout le temps où la femelle va être en train de dépiauter le cadeau, le mâle va pouvoir copuler. Et certaines études ont montré que si le mâle venait sans cadeau, il avait 6 fois plus de risque d'être cannibalisé que s'il venait avec un cadeau.
Oui, d'accord. Et oui. Un cadeau très intéressant.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les araignées sont des prédatrices, donc du coup, et solitaires, comme le soulignait Raphaël. Donc une des proies principales aussi des araignées, ce sont les araignées elles-mêmes.
Je disais aussi, Raphaël Jonceau, dans une étude, que pour lutter justement contre ce cannibalisme sexuel, il y a certains mâles aussi qui peuvent attacher les pattes de la femelle avant l'accouplement.
Dans certains cas, le mâle peut venir attacher des fils de soie sur le dos de la femelle. Et ces fils de soie vont avoir deux fonctions, d'immobiliser l'araignée de façon physique, mais ce n'est pas le rôle principal, mais probablement plus les phéromones qui sont associés à ces fils de soie, qui vont avoir un rôle apaisant et qui vont permettre au mâle de copuler en limitant les risques de cannibalisme.
Je voyais aussi, Raphaël Jonceau, des parades nuptiales assez proches même de celles qu'on peut observer chez les oiseaux. Je voyais la chorégraphie assez rythmée de l'araignée Pan, une araignée très colorée et assez mignonne.
Alors, moi, j'invite vraiment les auditrices et les auditeurs à aller regarder sur Internet les comportements de courge à l'araignée Pan. Déjà, ça permettra de se rendre compte que toutes les araignées ne sont pas noires et repoussantes. Mmh. Et donc, ces araignées Pan ont un abdomen qui est vivement coloré. Et le mâle redresse l'abdomen et effectue une petite parade pour séduire la femelle. Et c'est vraiment remarquable de voir ça.
Christine Rollard.
Oui, c'est effectivement aussi des vidéos que je conseille fortement aux gens. Même si j'ai eu quelquefois des phobies qui étaient vraiment avec une appréhension face à ces petites araignées sauteuses avec deux grands yeux à l'avant. Donc, on ne peut pas généraliser non plus l'approche. Mais en général, celles-ci sont bien perçues quand même.
Alors, ce n'est pas la petite bête qui va manger la grosse, mais comment se nourrissent-elles plus précisément? Quel est leur régime alimentaire à part leur partenaire sexuel? Restez à l'écoute, on y vient.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Paire de pattes, pas d'ailes, pas d'antennes, 4 paires d'yeux, nous parlons d'araignées. En direct sur France Culture avec Christine Rollard et Raphaël Jonceau. Et oui, chaque mois d'octobre, d'ailleurs, c'est l'initiative Araktober pour tenter de les apprivoiser. On vient de parler de leur cycle de vie, de leur mode de reproduction, de parade nuptiale. Peut-être qu'on peut un peu parler justement de leur régime alimentaire, Christine Rollard. De quoi se nourrissent-elles ?
Elles se nourrissent principalement d'insectes, hein. On parle de bons insecticides naturels dans leur rôle de prédateurs, et elles ne se nourrissent pas de proies morte, donc il faut que ça soit quelque chose qui bouge, et elles liquéfient en général leur proie avant de les avaler. Elles ne peuvent pas se nourrir de solides, donc il y a, avec l'injection du venin et des régurgitations digestives au niveau de la proie, une absorption de cette bouillie, de ce liquide, donc par le tube digestif. Donc toutes les araignées vont se nourrir comme ça, des insectes ou des araignées ou d'autres proies, parce qu'elles peuvent se nourrir aussi d'autres types de proies, donc dans leur voilà, régime alimentaire.
Ah oui, donc ce ne sont pas des charognards finalement?
Ah non, pas du tout. Non, non, il faut quand même que les proies aient des vibrations qu'elles ressentent avec leur soie sensorielle.
Raphaël Janson.
Oui, par rapport à ce que disait Christine sur la digestion externe, donc elles sont remarquablement efficaces dans la mesure où toutes les espèces d'araignées ne peuvent pas ingérer des particules qui sont plus grosses qu'un micromètre, c'est-à-dire 1/50 le diamètre d'un cheveu. Donc ça veut dire que les enzymes digestives sont extrêmement performantes, qui vont permettre de liquéfier totalement la proie, et elles vont donc boire le contenu de la proie, tel que le disait Christine.
Donc elles mangent en grande majorité des insectes, mais on voit aussi quand même des cas qui sont capables de enfin c'est très rare, mais de se nourrir de petits lézards, de grenouilles, voire d'oiseaux.
Oui, c'est bien de souligner que c'est très rare, parce que c'est en général quelque chose qui est bien repris ensuite. Hein, donc il faut quand même ne pas oublier le régime principal qui correspond quand même à des insectes, voire d'autres araignées ou arachnides.
Régime principal qui font d'elles d'ailleurs des régulateurs de population d'insectes, Raphaël Janson. Je voyais dans une récente étude, elles consomment entre 400 et 800 millions de tonnes d'insectes par an, ça veut dire que sans elles, on croulerait sous les mouches.
Exactement. Alors c'est un peu difficile de se rendre compte de ce que représentent 400 à 800 millions de tonnes de proies, mais c'est l'équivalent de 1 à 2 fois la masse de l'humanité. C'est plus que la quantité de viande ou de poisson ingurgitée par les humains, ou plus que la quantité de proies consommée par les oiseaux. Donc vraiment, sont, comme le disait Christine tout à l'heure, un des principaux régulateurs des écosystèmes terrestres, et elles jouent un rôle évidemment déterminant.
Puis on a une exception qu'il faut citer également, c'est Bagheera kimplingi, une araignée sauteuse végétarienne en Amérique centrale, qui se nourrit de pousses d'acacia.
Oui, mais en fait, elle n'est pas complètement végétarienne non plus.
Bon,
quand elle est sortie, effectivement, on m'a posé la question, et cette araignée végétarienne. On a retrouvé effectivement dans son tube digestif un certain nombre d'exudats d'acacia, dont elle se nourrit principalement, mais elle a toujours un petit pourcentage de carnivorie. Et si effectivement l'acacia perd de son appétence en eau en particulier, on se retrouve avec cette Bagheera kimplingi, hein, c'est un clin d'œil quand même, au niveau de son nom, mais avec un régime carnivore pratiquement à 100%.
Raphaël Janson, donc elles font partie des plus grands prédateurs au monde, devant les baleines ou les humains. On a évoqué le cannibalisme, à quel point le cannibalisme est fréquent justement chez ces arachnides?
Alors ça, c'est une caractéristique de la biologie des araignées qui est aussi assez peu connue, c'est leur propension à la vie sociale. Donc comme on le disait tout à l'heure, il y a environ 53 000 espèces d'araignées qui sont décrites actuellement. Et parmi ces 53 000 espèces, seule une vingtaine a développé une vie sociale permanente. Donc c'est vraiment très marginal par rapport au nombre d'espèces d'araignées. Et cette vie sociale permanente se traduit par la coopération entre les différents membres de la colonie et le maintien d'une tolérance tout au long de la vie des araignées. Et donc on peut trouver parfois, notamment en Guyane, une espèce qui s'appelle Anelosimus eximus, qui peut former des colonies qui, pour les plus grandes, peuvent faire une trentaine de mètres de longueur, qui vont contenir des dizaines de milliers d'individus, qui vont former des petites poches, et en fait ces individus vont coopérer dans la chasse, élever les jeunes de façon coopérative, et tisser de façon aussi harmonieuse et collective.
Christine Roulard.
J'ai juste une petite réflexion par rapport à ça, et c'est intéressant justement que Raphaël utilise ce terme de sociabilité. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de dire, alors peut-être que justement tu m'apporteras des informations en direct du coup, qu'elles vivent en communauté et qu'il y a effectivement une coopération comme le soulignait Raphaël, mais que dans ma tête c'était pas une société, c'était pas des araignées dites sociales.
Alors, moi je pense qu'on peut les considérer, les définir comme étant sociales, dans la mesure où un des critères principaux de la socialité est le fait que les individus présentent de l'attraction mutuelle, de l'interattraction et de la tolérance. Et à ce titre-là, les araignées remplissent ce critère au même titre que les abeilles mellifères, les fourmis ou les termites. Et chez ces espèces, comme je viens de citer, la fourmi ou termite, à partir de ce rassemblement d'individus, on peut avoir des processus de différenciation comportementale qui vont permettre la mise en place d'une division du travail, notamment reproductif. Mais je pense que les araignées sociales, au même titre que les juvéniles de toutes les espèces d'araignées, qui, comme je le disais tout à l'heure, quand elles sortent du cocon, vont rester à proximité les unes des autres pendant quelques jours, semaines ou mois, ont tous les attributs de la socialité.
Alors, cette grande diversité d'espèces et de comportements, comment on les inventorie, comment on les classe et comment on les étudie, c'est le reportage du jour. Le monde des araignées, comme on le disait il y a quelques instants, est encore largement méconnu. La preuve, nous n'avons probablement découvert que la moitié des espèces qui existent et de nouvelles sont décrites chaque année. On continue d'en parler avec notre reportage du jour et c'est avec vous, Loïc Dutoit, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes allé voir la collection d'araignées du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.
Oui, il faut imaginer une gigantesque bibliothèque dans laquelle les livres sont remplacés par des bocaux pleins d'alcool et d'arachnides morts. En tout, ce sont environ 3 millions d'individus, dont 25 000 espèces d'araignées différentes qui sont stockées là-bas. C'est une collection d'ailleurs que vous connaissez bien, Christine Rollard, vous qui en avez longtemps été responsable.
Oui.
Et j'ai pu rencontrer celle qui a pris votre suite, Kaina Privé, qui est donc maîtresse de conférences au muséum et chercheuse dans l'équipe écotrope du laboratoire Mecadev. Ensemble, nous avons dépoussiéré certains de ces bocaux, de migales particulièrement, pour comprendre un peu mieux comment décrire les espèces d'araignées. Kaina Privé s'intéresse particulièrement à ce qui se passe dans les milieux tropicaux, comme en Guyane. Dans cette seule région d'outre-mer, on dénombre au moins 4 fois plus d'espèces différentes que dans tout l'Hexagone. Et cette différence de diversité est encore bien mystérieuse.
Donc on est ici dans la pièce de collection. On voit sur les étagères là des collections de pseudoscorpions et d'acariens. Sur la gauche, les collections de migales. Et tout au fond, des meubles de lame qui contiennent des pseudoscorpions, des acariens et des opilions. Et encore plus loin, toute la collection d'araignées.
Quelle est un petit peu l'utilité de cette collection? Parce que je crois comprendre qu'il y a des scientifiques du monde entier qui viennent ici, notamment quand ils ont par exemple une nouvelle espèce à décrire.
Donc effectivement, une collection naturaliste, une collection d'objets naturels, ça sert de référence pour la taxonomie, donc pour la science qui décrit les espèces. Donc lorsqu'on décrit une nouvelle espèce, on est obligé de la déposer dans une collection, dans un muséum. Donc on appelle ce spécimen de référence le spécimen type. Et lorsque des collègues découvrent une potentielle nouvelle espèce, ils sont obligés de venir comparer leur spécimen avec des spécimens qui sont déjà déposés en collection. Et donc comme à Paris, on a une collection très conséquente de spécimens types issus du travail de Jeanne Simon, qui était donc l'aranéologue, qui est encore aujourd'hui considéré comme le plus prolifique. Mais il y a beaucoup de collègues du monde entier qui viennent étudier des spécimens de collection.
Est-ce que il y a peut-être un individu qu'on pourrait détailler et qu'on pourrait regarder un peu, mais je vous laisse le choisir.
Difficile à dire, hein, parce qu'il y a beaucoup de spécimens qui sont un peu en puzzle. Ça c'est une migale de Guyane. Je vous propose qu'on la monte avec nous et on va la regarder sous le binoculaire.
Ah bah avec plaisir.
Allons-y.
Donc là on est dans votre bureau.
Tout à fait.
C'est là où vous faites plutôt la partie analyse.
Voilà, c'est tout ce qui est partie morphologie, puisque là on est dans un bureau où il y a une paillasse et une loupe binoculaire. Et donc c'est sous la loupe binoculaire qu'on va aller étudier les spécimens pour aller regarder leurs caractéristiques morphologiques, les critères d'identification.
Donc là vous sortez un spécimen de migale du bocal.
Voilà, donc c'est une migale de Guyane qui s'appelle Eurypelma guyanum. C'est une espèce qui a été décrite par Eugène Simon. Ah, mais là on a un cas sympa, c'est qu'il y a deux noms d'espèces dans le bocal, donc probablement... Eugène Simon l'avait décrit comme Eurypelma guyanum. Ça a été déterminé par un autre chercheur qui travaillait sur les araignées qui s'appelle Dresco, enfin un scientifique. Et on a un collègue qui est revenu en 2007, Ray Gabriel, qui travaille aussi sur les migales, et qui a dit « Ah, en fait, ce spécimen ne s'appelle pas Eurypelma guyanum, enfin son nom d'espèce n'est pas Eurypelma guyanum, mais c'est Theraphosa blondii, et c'est une femelle ». Donc Theraphosa blondii, qui est la même espèce que celle que vous avez là-bas, naturalisée dans le bocal plein d'alcool, là.
Ah oui, celle qui est très, très grande en position étoile de mer.
Voilà, qui a été étalée pour qu'on la voit bien. Et on a d'un côté un mâle et d'un côté une femelle. C'est l'araignée la plus grande au monde. Elle a à peu près un diamètre d'une assiette. Elle est inoffensive, hein, mais c'est une espèce qui est, bon, moi, que je trouve majestueuse. Et qui fait aussi l'objet de beaucoup de braconnage, malheureusement. Donc celle-ci, finalement, elle est plutôt petite, mais apparemment, elle est déjà adulte. Donc là, comme elle a été dans l'alcool un certain temps, elle est toute recroquevillée. Et puis si je la prends dans ma main, elle est assez dure à déplier, en fait.
Vous dites qu'elle est petite, mais elle fait quand même une bonne paume de main, même toute recroquevillée.
Oui, c'est sûr. Elle fait une bonne paume de main recroquevillée. par rapport à la taille qu'elle pourrait faire, c'est-à-dire qu'elle pourrait faire à peu près la taille de ma main. Là, elle fait juste la taille de ma paume. Donc, pour son espèce, elle est plutôt petite. Et on a les chélicères.
C'est les crochets ?
Alors, les crochets, c'est fixé sur les chélicères. Et donc, les chélicères et les crochets, donc les crochets des chélicères, sont parallèles l'un par rapport à l'autre, alors que chez les aranéomorphes, ils se croisent. Et donc là, sur ce spécimen, donc on voit plein de soies.
C'est l'aspect velu dont on parle souvent chez ces mygales.
Voilà, l'aspect velu, mais ce n'est pas des poils, ce n'est pas des mammifères. Donc on ne parle pas de poils, on parle de soie. Et donc on a aussi des épines. Là, si on touche, on voit que c'est un petit peu rugueux. Et c'est des caractéristiques qui sont des caractéristiques qu'on va aller observer, nous, lorsqu'on va décrire les espèces. Pareil, le nombre de crochets au bout des pattes. Là, on voit, elles ont des petits crochets. Et donc nous, là, la plupart du temps, on met... Alors normalement, on maintient les spécimens dans l'alcool lorsqu'on les observe sous l'aube binoculaire. Donc on allume la lumière. Je vais mettre pas mal de lumière. Je vais essayer de vous la positionner. Peut-être on peut zoomer sur les griffes, justement, au bout des pattes. Et on voit les soies aussi, si vous voulez. Mettre votre œil.
Waouh. C'est très brillant. Et les soies sur les côtés, ça a quelle utilité?
C'est des organes sensoriels. Donc c'est avec ça qu'elles vont percevoir les vibrations de leur environnement. Il faut savoir que les araignées, elles ont plutôt une mauvaise vue. Quand on les voit se déplacer rapidement, se réorienter par rapport à nous quand on s'approche d'elles, ben c'est parce qu'elles nous ont perçus avec leurs soies qui sont présentes sur leur corps.
Vous nous avez choisi des araignées tropicales, c'est peut-être pas pour rien aussi. Vos travaux s'intéressent beaucoup à essayer de comprendre le fait qu'il y ait une diversité énorme dans ces zones tropicales comparées à nos zones tempérées à nous.
Oui, effectivement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il y a plus d'espèces dans les zones tropicales. Ce gradient latitudinal de diversité, il s'observe chez quasiment tous les organismes. Donc, il y a des hypothèses liées au métabolisme qui seraient différents et liées à l'absence de saisonnalité qui permettrait d'avoir une plus grande diversité, à l'ancienneté de ces écosystèmes qui n'ont pas été perturbés au cours du temps. Mais plus récemment, ce gradient-là qui avait été décrit comme vraiment les zones tropicales sont extrêmement diversifiées et ça se réduit au niveau des pôles, finalement, elle est aussi remise en question pour un certain nombre de groupes. Certains disent « Ah oui, ça a plutôt une forme de poire, finalement, c'est plutôt l'hémisphère sud où il y aurait une grosse, grosse diversité, ça commencerait au niveau de l'équateur et ça serait surtout l'hémisphère sud. » Et il y a des groupes chez lesquels c'est pas retrouvé, ce gradient-là, non plus. Donc, voilà, nous, sur les araignées, je pense qu'on a encore un très, très gros travail à faire pour essayer de toucher du doigt les raisons derrière ce pattern-là. Il va falloir qu'on ait plus de connaissances sur les écosystèmes tropicaux, notamment, et de l'hémisphère sud en général, pour pouvoir aller tester nos hypothèses.
Merci Loïc Dutoit. Nos reportages loin du studio pour découvrir la science telle qu'elle se fabrique au quotidien. C'est notre collection La Science au Labo, sur votre appli préférée, l'application Radio France, bien sûr. Raphaël Jonçon, on va revenir dans quelques instants sur ces questions de perception de ces animaux, mais pour compléter ce reportage, enfin comment avez-vous justement écouté et perçu toutes ces questions autour de la taxonomie des araignées?
Ce que j'ai surtout apprécié, c'est le fait qu'elle insiste sur les poils, ou qu'on appelle donc normalement des soies, pour être un peu plus rigoureux. Moi, j'utilise le terme de poils pour pas faire la confusion chez les araignées avec la soie qu'elles vont déposer quand elles se déplacent ou pour faire la toile. Et vraiment, il faut considérer que ces araignées qui sont velues, tous ces poils, toutes ces soies ont pour fonction essentielle de percevoir leur environnement. Donc, comme le disait Kaina, de percevoir les vibrations, mais également les informations chimiques qu'elles peuvent avoir dans l'environnement, olfactives, émises par les congénères. Donc vraiment, l'organe sensoriel principal des araignées, ce sont les poils, les soies.
Christine Rollat,
oui, par rapport. Je reprenais justement effectivement le terme de soie et de poil, et pour pas faire la confusion, je parle souvent de la soie, le matériau au singulier, et des soies qui sont par milliers sur le corps des araignées, ou toujours au pluriel pour faire la distinction. Mais c'est vrai que par rapport au reportage, ça m'a fait quelque chose aussi, puisque jeune retraitée et entendant Kaina, donc qui est ma successeuse sur la gestion des collections, c'est quelque chose qui a quand même occupé toute ma carrière, de pouvoir gérer ces collections, de pouvoir les mettre à disposition des visiteurs qui venaient les consulter et voir changer, comme ça a été souligné, certains noms anciens avec maintenant des meilleures connaissances de la morphologie, voire aussi aussi des études génétiques qui permettent de modifier des noms. Et c'est ça aussi les études en taxonomie, en systématique, de revoir un petit peu ce qui a été fait par nos anciens.
Raphaël Janson, justement, a-t-on de meilleures connaissances sur l'histoire évolutive des araignées? Comment ont-elles évolué pour arriver à cette très grande diversité biologique et écologique?
Alors, c'est pas tout à fait mon domaine de compétence, mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre de questions qui restent irrésolues, qui font l'objet de débats intenses parmi la communauté des aranéologues, et donc tous les débats ne sont pas encore tranchés.
Christine Rollard, quel type de débat par exemple?
Ah ben, un petit peu ce qu'évoquait aussi déjà Kaina, c'est-à-dire cette diversité qu'on observe un petit peu à différents endroits, beaucoup plus avec des hotspots de biodiversité, comment on peut l'expliquer, et puis cette diversification qu'on peut avoir avec des araignées qui peuvent avoir des conditions écologiques qui quelquefois sont vraiment très strictes, même si on peut en retrouver dans différents habitats, c'est vraiment quelque chose qu'il faut encore comprendre. On n'a pas de notion sur la majorité des araignées, sur leur cycle biologique, sur leurs conditions environnementales, etc. Donc je reprenais aussi quelque chose qui a été évoqué dans le reportage avec la mauvaise vue. En fait, non, la vue est correcte, mais dans leur monde à elles, et c'est pas la même perception que nous on peut avoir en tant qu'humains.
Bien justement, comment les araignées perçoivent-elles? Comment est-ce qu'elles voient le monde autour d'elles? Comment justement sont-elles sensibles grâce à leurs poils? On continue de parler de la perception des arachnides dans quelques instants. Tarantula de The Tarantula. En direct sur France Culture, nous parlons d'araignées en compagnie de nos deux invités du jour. Christine Rollard, aranéologue attachée honoraire au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Et Raphaël Janson, éthologue, directeur de recherche au CNRS et directeur adjoint du Centre de Recherche sur la cognition animale à Toulouse. On vient d'évoquer à l'instant, un tout petit peu, de caresser la perception, le monde sensible des araignées. Alors, les araignées n'ont pas d'oreilles, par conséquent, pas d'ouïe, mais qu'en est-il de leur odorat, Raphaël Janson?
Alors le sens de l'odorat chez les araignées est assez peu étudié en comparaison d'autres modalités sensorielles, notamment la sensibilité aux vibrations et à la vue. Donc là, à nouveau, c'est un pan entier de connaissances qu'on doit encore découvrir et acquérir. On ne sait que très très peu de choses sur leur capacité à percevoir les odeurs.
Oui, Christine Rollard.
Oui, je reprendrai peut-être, elles n'ont pas d'ouïe, si. En fait, grâce aux soies sensorielles, les sens, bon, bien sûr, il y a la vision avec les yeux, elles en ont de 0 à 8 selon les familles d'araignées, et les soies sensorielles sont mécanoréceptrices et chimioréceptrices, et ça leur permet d'avoir les sens du goût, de l'odorat, du toucher, et de l'ouïe, puisqu'elles perçoivent quand même des tapotements, des vibrations, des ondes, etc. Donc on peut dire qu'elles entendent, entre guillemets, avec les soies.
Vous disiez, Raphaël Janson, il y a quelques instants, que ces soies, ces poils permettent aux araignées de percevoir des informations chimiques. Quel type d'informations chimiques?
Alors, elles peuvent percevoir les composés qui sont présents sur la surface des proies, mais également reconnaître les composés de la cuticule, donc de la carapace, des congénères avec lesquels elles sont en interaction. Donc de déterminer l'état de réceptivité sexuelle du partenaire ou de la partenaire qu'elle va rencontrer, ou la reconnaissance des individus comme étant d'une même espèce ou pas, ou d'une même colonie ou pas, comme chez les espèces d'araignées sociales. Donc ça va leur permettre de percevoir les individus avec lesquels elles vont interagir et d'identifier différents niveaux de relations.
Par rapport aux yeux, Christine Rollard, maintenant, donc, vous dites entre 0 jusqu'à une paire de 8, 6... 8, 6
oui, en fait, 0, 2, 4, 6, 8, voilà. Ça existe, mais la majorité des araignées, c'est 6, voire 8.
Et alors, comment leur vision est-elle, est-elle affûtée ou non?
Alors, elle est affûtée, encore une fois, il faut se remettre, il faut s'oublier un peu, hein, on n'est pas, faut pas faire de l'anthropomorphisme, et il faut se mettre à leur échelle. La majorité des araignées ont une taille environ de 5 mm hein, de longueur de corps, et c'est une vision qui est à courte distance nette, avec une perception de l'environnement, sachant que la majorité ont 8 yeux, il y a 2 yeux principaux hein, qui sont assez directs, et puis des yeux secondaires qui permettent à l'araignée d'avoir une perception de tout l'environnement, tout autour d'elle, donc périphérique, et de recevoir en fait les informations directement en fait par cette vision. Donc elles ont une vision qui est correcte. Apparemment, ça a été fait aussi sur certaines espèces, comme les araignées sauteuses dont on parlait tout à l'heure, avec des jolies couleurs. Donc elles percevraient effectivement une certaine gamme de couleurs, peut-être pas les mêmes pour toutes les familles, mais elles perçoivent également des gammes de couleurs différentes.
Mais d'ailleurs, Raphaël Janson, ces araignées sauteuses, les salticidées, avec leurs grosses paires d'yeux frontales, elles sont connues pour faire des sauts assez impressionnants. Bon, ça veut dire quand même qu'elles sont capables d'avoir une excellente vision.
Alors parmi les araignées, ce qui est un peu difficile de façon générale, c'est de dresser le portrait type d'une espèce d'araignée, tant espèce de subtilité en fonction des espèces considérées. Et chez les saltiques, ce sont les espèces qui vont avoir les plus gros yeux. Et certaines des saltiques vont avoir une acuité visuelle qui n'est que 5 à 7 fois inférieure à celle de l'espèce humaine et qui équivaut à celle des chats ou des pigeons. Donc elles ont une bonne capacité visuelle qui va leur permettre de chasser à l'affût et de pouvoir sauter sur les différentes proies qu'elles vont pouvoir percevoir dans leur environnement.
Ça veut dire, Christine Rollard, qu'elles sont capables de nous percevoir visuellement?
Alors, oui et non. Donc là, on parle des saltiques, effectivement. Oui. Donc, parmi une des familles d'araignées, il y en a quand même 139. Hein. Après, il y en a d'autres qui vont utiliser aussi leur vue pour chasser un petit peu en courant. Et puis d'autres qui vont faire la chasse passive. Et donc là, la vision ne va pas être le premier sens qu'elles vont utiliser. Mais néanmoins, c'est encore une fois, par rapport à leur taille, une vision globale de leur environnement, mais on n'est pas perçu comme le prédateur humain en face d'elle, mais on est un quelque chose dans le décor, dans l'environnement, mais pas perçu comme un humain.
Raphaël Janson.
Oui, tout à fait, j'abonde par rapport à ce que vient de se dire Christine. Et faut vraiment, à nouveau, comme le disait aussi Christine précédemment, essayer de pas essayer de projeter nos propres perceptions sensorielles sur celles des araignées.
Oui.
Et de garder cette distance-là. Et comme on l'a évoqué précédemment, les araignées vivent dans un monde de vibrations, ce qui pour notre espèce est incompréhensible.
Oui.
C'est vraiment une sensation à laquelle on a peu accès. Et donc, c'est compliqué de se projeter, de monter des dispositifs expérimentaux pour étudier notamment les capacités cognitives des araignées en raison de cette sensibilité aux vibrations qui nous est si étrangère.
Oui. Sur les yeux des araignées, alors je ne sais pas si je vais faire de l'anthropocentrisme, mais il y a cette étude récente qui est parue dans PNAS qui révèle que les araignées sauteuses connaissent un état de sommeil avec des mouvements oculaires rapides. C'est un état très similaire à ceux qu'on observe chez les humains qui rêvent. Alors ça, Raphaël Janson, est-ce que ça signifie que les araignées rêvent?
Alors, les auteurs dans cette étude sont très prudents et disent que c'est un état qui est proche de celui du sommeil paradoxal qu'on va trouver chez de nombreuses espèces animales, à commencer par la nôtre. Donc, ils ont simplement fait cette description, mais restent très prudents sur les conclusions qu'on peut en tirer, les interprétations à en faire.
Oui, oui, tout à fait. Je rejoins complètement Raphaël par rapport à ça. On ne va pas parler directement de sommeil des araignées, quand même.
Les gens limitent leur connaissance à quelques espèces d'araignées. En fait, les araignées dans le monde, il a été décrit environ 30 000 espèces différentes. Sur ces 30 000 espèces, il y a des bêtes qui ont été décrites deux fois. Parce que les premiers auteurs, les auteurs du siècle dernier, avaient des descriptions assez succinctes, qui étaient justifiées à l'époque, étant donné qu'il y avait peu d'espèces, il suffisait de quelques caractères pour différencier une espèce. Et en fait, 30 000 espèces, c'est quand même beaucoup. Et les gens en connaissent une dizaine. Ce que les gens ignorent, c'est que la plupart des espèces sont petites. Les espèces mesurent de 2 à 5 millimètres à peu près. Et il y a beaucoup d'espèces qui font moins d'un millimètre.
Mais il y a aussi le problème de la toile. Ah oui. C'est peut-être. Est-ce que si vous, quand vous vous promenez à la campagne, Monsieur Hubert, si vous voyez une toile, vous dites ça, c'est la toile de telle araignée.
Oh là là.
Ou bien
pas
est-ce
du
que
tout.
C'est pas du tout.
C'est. On peut. Quelques espèces font des toiles particulières. Pour vous citer un exemple, il y a Ziyaix notata. Ça a l'air très barbare. C'est son nom latin. Qui construit une toile orbiculaire avec deux secteurs libres. Il y a toujours ces deux secteurs libres, et il y a qu'elle qui construit cette toile avec deux secteurs libres. Il y a les Iptiotes aussi qui construisent des toiles triangulaires. Ce sont les seuls qui construisent ces toiles-là. Mais sinon, il est très difficile de donner le nom d'une araignée à la vue de sa toile.
Voilà un extrait de l'émission « Ouvrir la porte » qui donne sur le jardin sur France Culture en 1978. Voilà le problème de la toile. Alors en réalité, seulement la moitié des espèces d'arachnides construisent des toiles. Christine Rollard, quelles sont justement ces différentes typologies des toiles qu'on peut observer ?
Donc cette typologie, c'est d'abord la classique qu'en général les gens ont dans la tête, hein, avec la géométrie bien régulière, qu'on appelle aussi orbitelle. Et ensuite, on peut avoir des toiles qui sont plus irrégulières, mais qui peuvent être tubulaires, par exemple. Il peut y avoir des toiles en nappe, toutes simples, un peu en dôme ou en hamac. Il peut y avoir des toiles en nappe prolongées par une retraite ou un entonnoir. Il peut y avoir aussi des toiles en réseau. Et comme le soulignait Michel Hubert, qui était quand même prédécesseur aussi au niveau de la gestion des collections, certaines vont limiter à un petit triangle donc de toiles, d'autres vont faire des éléments qui vont manquer, le centre peut être plein avec des fils de soie et quelquefois vide. Donc tout ça va nous donner des éléments pour définir des familles d'araignées différentes.
Raphaël Jonceau, comment justement ces familles d'araignées différentes s'y prennent-elles pour construire de telles structures aussi complexes, faut quand même reconnaître.
Ouais. Alors, c'est à la fois des comportements qui sont innés, donc les individus vont suivre des règles comportementales bien définies pour construire les différentes parties de la toile, mais en même temps la capacité des araignées à s'adapter à leur environnement, parce que selon les conditions locales de vent, de disponibilité en proie, les araignées vont modifier la structure de la toile, augmenter la surface, diminuer la surface, l'orienter perpendiculaire ou parallèlement au vent, modifier certaines parties de la toile pour accroître les probabilités de capture. Donc c'est un jeu assez subtil entre du comportement inné et le fruit de l'expérience.
Leur toile, Christine Rollard, c'est leur outil principal de chasse.
Oui, c'est ça. Hein. Le but principal d'une toile, c'est vraiment du piégeage. Donc elles vont piéger leur proie grâce à ces différentes formes de toile. Et ça peut être aussi à la fois une sorte de demeure, de repère, de refuge quand elles ne sont pas en activité de chasse. Alors bon, avec une toile, c'est une chasse assez passive. Après, pour toutes celles qui ne font pas de toile, c'est des chasses beaucoup plus actives. Mais il peut y avoir aussi un repos quelque part. Donc la toile sert principalement de piège, mais il peut y avoir une liaison à partir de la toile avec un fil ou avec une structure sur le côté, une loge de repos ou une retraite dans laquelle elles se reposent en fait pendant qu'elles ne sont pas en chasse.
Un piège, une loge de repos. Raphaël Lançon, il y a aussi l'hypothèse philosophique qui est défendue par deux biologistes selon laquelle cette toile ce serait une sorte d'extension de leur cognition. Est-ce que vous êtes d'avis de pouvoir partager cette idée-là, que la toile serait une extension de leur cerveau, de leur cognition externalisée?
Oui, totalement. On parle de façon plus générale de phénotype étendu, donc de caractéristiques de l'individu qui vont au-delà du seul individu. Et dans la mesure où la toile va participer au traitement de l'information sensorielle pour l'araignée, c'est une extension de son corps. Et donc, on peut tout à fait parler de cognition étendue. Et comme on le disait tout à l'heure, en fonction de son expérience, en fonction de son état de satiété, l'araignée est capable de modifier la tension de certains fils de la toile, la largeur de certains fils de soie, pour adapter la structure de la toile et les qualités, les caractéristiques de la toile à l'état interne de l'araignée. Donc oui, on peut tout à fait parler de cognition étendue chez les araignées qui vont tisser des toiles.
Et un exemple qu'on prend souvent de phénotype étendu, c'est par exemple le barrage des castors. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire, Raphaël Jonceau, c'est que ça me fait penser aux fameuses expériences de la NASA qui a drogué des araignées avec de la caféine, du LSD, de la marijuana pour observer les effets sur la toile. On voit avec du LSD à haute dose certaines araignées qui renoncent complètement à tisser leur toile. Donc ça montre bien ce type d'expérience, Raphaël Jonceau, que l'araignée est capable de modifier sa toile en fonction de son expérience personnelle.
Et puis ça montre surtout que quand donc on injecte ou on fait consommer à des araignées de la caféine, de la cocaïne ou autre chose, que ça interfère avec le système nerveux central, ça va modifier la transmission d'informations au niveau du cerveau et que ça va avoir des conséquences au niveau de la structure de la toile et que selon le type de drogue qui va être injectée aux araignées, ça va modifier certaines voies de signalisation particulières avec des répercussions spécifiques sur certaines parties de la toile.
Christine Rollard.
Oui, tout à fait. C'est des expériences qui avaient été faites avant la NASA par des Allemands qui avaient testé justement différentes drogues et vu les conséquences que ça pouvait avoir sur la construction et la régularité en fait de toiles géométriques en particulier.
De comme on le disait, toutes les araignées ne tissent pas nécessairement de toiles. En revanche, Christine Rollard, toutes produisent de la soie. Alors ça, quelle est la physiologie qui est en jeu pour la production de soie? C'est un matériel assez fascinant.
Ah bah c'est fascinant, effectivement. C'est pour ça que c'est d'ailleurs étudié depuis quand même pas mal d'années par des physiciens, des chimistes, etc., pour en connaître bien les composants et éventuellement reproduire ça de façon synthétique, puisque l'élevage des araignées est quand même assez contraignant. Et donc, du coup, on essaye de reproduire ça de façon synthétique à l'heure actuelle avec des bactéries. Donc, c'est vrai que toutes les araignées ne construisent pas des toiles, on vient de le dire, mais produisent toutes des fils de soie. Et les araignées sont les seuls animaux à avoir plusieurs types de fils pour différents usages, ce qui n'est pas le cas pour d'autres animaux qui peuvent aussi produire des fils de soie, comme les vers à soie, par exemple. Elles ont jusqu'à 6 types de glandes à l'intérieur de l'abdomen, de la partie arrière du corps, et la majorité ont au moins 3 types de glandes qui vont produire soit des fils de déplacement, soit des fils d'accroche, soit des fils pour les femelles pour entourer leurs œufs. Tout ça, ce sont des fils différents. Et dans une toile géométrique, on peut avoir jusqu'à 4 types pardon, de glandes qui sont sollicitées pour faire ce piège.
Oui, Raphaël Johnson, on a en effet la construction de toiles spermatiques par le mâle, par exemple, dans parmi les usages.
Oui. Alors ça, c'est une caractéristique qui est unique dans le vivant.
Oui.
C'est que le mâle va tisser une petite toile de soie, qui s'appelle donc la toile spermatique, et venir déposer sur cette toile une petite goutte de sperme. Et à l'avant du corps des araignées, donc on a dit tout à l'heure que les araignées avaient 4 paires de pattes, elles ont également 2 appendices qui s'appellent des pédipalpes, qui sont généralement des organes sensoriels, qui ne sont pas impliqués dans la locomotion. Et le mâle va venir remplir ses pédipalpes avec la goutte de sperme qu'il aura déposée sur la toile spermatique. Et c'est avec ses pédipalpes qu'il va pouvoir ensuite copuler. Et c'est l'organe d'intromission de la femelle. Et donc quand le mâle doit insérer ses pédipalpes au niveau de la partie ventrale de la femelle, là, il est exposé au cannibalisme. Et c'est pour ça que, comme on le disait précédemment, certaines stratégies comportementales ont été mises en place par les araignées pour limiter les risques associés au cannibalisme dans cette phase de vulnérabilité.
Raphaël Johnson, il y a même aussi des araignées donc sans toile de chasse qui ont développé des techniques de chasse avec leur soie, qu'on appelle aussi les araignées ogres ou araignées gladiateurs. Ça laisse...
Alors oui, ce sont des araignées qui sont celles qui ont les plus gros yeux, qui vont chasser essentiellement la nuit et qui vont avoir dans les paires de pattes antérieures un petit filet de soie qu'elles ont tissé et qu'elles vont venir projeter sur sur la proie comme le faisaient les rétières au temps des gladiateurs.
Oui. Christine Rollard.
Non, ça me fait me rappeler un souvenir quand la première fois j'ai vu justement une araignée rétière en Guadeloupe et exercer ce lâcher de filet dans la nuit parce que c'est une araignée nocturne, un chasse nocturne et ça fait vraiment un flash bleu. Donc à la lampe frontale et c'est assez spectaculaire de voir la rapidité avec laquelle elle peut justement tirer son filet et la perception justement des vibrations d'insectes qui vont passer à sa portée et la rapidité avec laquelle elle les entoure avec ce filet.
On continue de parler de l'écologie des araignées et pourquoi sont-elles les reines de la conquête des nouveaux territoires.
On y arrive.
France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous parlons d'araignées avec Christine Rollard et Raphaël Johnson. Alors les araignées sont ubiquistes, ça veut dire qu'elles ont conquis la quasi-totalité du globe, sauf l'Antarctique et les hautes altitudes. Comment ça s'explique ça, Christine Rollard?
Alors on en trouve quand même jusqu'à 6700 mètres d'altitude hein, dans l'Himalaya. Hein, donc il y en a quand même qui sont dans des endroits très particuliers. Et on en trouve en Arctique et sur les terres australes et antarctiques françaises quand même aussi. Hein, donc c'est vraiment aux deux pôles où on ne retrouve pas d'araignées. Donc c'est vraiment une diversité très importante.
Raphaël Johnson, justement, cette diversité de niches écologiques, comment on la comprend?
Alors, c'est une des questions qui reste ouverte, comme on mentionnait tout à l'heure, un certain débat encore d'actualité. C'est notamment l'évolution des structures, des toiles qui sont tissées par les araignées. Certaines espèces ayant perdu l'usage de la toile au cours de l'évolution. Mmh. Et par exemple, le fait que des araignées puissent tisser des toiles, les belles toiles géométriques, les araignées orbitelles, ça leur a permis de conquérir de nouvelles niches écologiques et d'intercepter des proies volantes. Donc, avec cette stratégie de chasse qui sont si diversifiées, elles ont pu coloniser tous les milieux, être aussi efficaces en tant que prédatrices.
Raphaël Janson, autre stratégie pour coloniser tous les milieux, on voit aussi la pratique du ballooning.
Alors oui, ça ce sont certaines, chez certaines espèces d'araignées, ce que font les juvéniles au moment de la phase de dispersion, après qu'ils aient éclos du cocon maternel, ils vont produire un petit fil de soie au niveau de l'abdomen, ils vont se hisser sur des poteaux, sur des branches, et attendre que les conditions soient réunies pour pouvoir s'envoler. Et les conditions qui sont nécessaires au décollage des jeunes araignées, c'est le vent et le champ électromagnétique terrestre qui va faire que la soie étant chargée électriquement, les araignées vont pouvoir décoller, s'envoler et aller coloniser de nouveaux habitants.
Oui, c'est ça. C'est en général même plusieurs fils, puisqu'il y a plusieurs fils qui vont se disperser et elle va se laisser emporter tel un aéronaute. Et on a souvent ce phénomène de, quelquefois qui est bien repris par les médias dans le côté anxiogène, des pluies d'araignées ou ce qu'on appelle aussi par chez nous les fils de la Vierge. Donc ça fait vraiment des fils un peu partout. Hein. Donc c'est vraiment des phénomènes périodiques un peu partout dans le monde. Mais les araignées de petite taille peuvent aussi se déplacer de cette façon-là, d'un support à un autre, donc c'est pour ça qu'on voit régulièrement le matin avec la rosée des fils entre des différents supports.
C'est des sortes d'araignées montgolfières, ce mode de locomotion, ça peut couvrir plusieurs centaines de kilomètres. Mm-hmm. On parle dans les airs, Raphaël Janson, mais aussi on a même une araignée sous-marine qui est capable de créer une cloche de plongée.
Alors c'est une araignée aquatique qu'on trouve en France, qui s'appelle l'argironette et qui vit sous l'eau et qui va tisser un petit réseau de soie au niveau des feuilles qui sont sous l'eau, et avec son abdomen, amener sous cette petite cloche qu'elle a plongée des bulles d'air dans laquelle elle va pouvoir rester pour pouvoir respirer, où elle va se reproduire, elle va pondre son cocon et chasser. Donc vraiment, elle amène de l'air avec son abdomen, elle va renouveler l'air de cette cloche sous aquatique en fonction des modifications, notamment de la teneur en gaz carbonique. Donc si la teneur en gaz carbonique augmente, l'araignée va renouveler la quantité d'air dans cette cloche aquatique pour pouvoir vivre correctement.
Christine Rollard, on arrive à la toute fin de cette émission. On a quand même évoqué un certain nombre d'usages entre le piège, la loge, la toile qui sert de scaphandre de montgolfière. Est-ce qu'on peut dire finalement que, à travers leur construction de toile, les araignées entretiennent un rapport technique avec leur milieu?
Oui, parce que comme le disait Raphaël tout à l'heure, elles peuvent s'adapter. Donc il y a tout un tas de comportements qui sont innés, mais elles ont une adaptation par rapport à la perception de leur environnement. Donc c'est vraiment des animaux qui ont énormément évolué depuis les premières traces fossiles qu'on a trouvées il y a à peu près 300 millions d'années. Donc elles ont vraiment diversifié leur technique.
Oui, Raphaël Janson, on peut dire en effet que voilà, elles ont un rapport technique au monde comme pour notre espèce finalement.
Exactement, ouais. Avec des modalités sensorielles qui sont largement différentes des nôtres, mais oui.
Avec une hypersensorialité pour les araignées, effectivement.
Et très rapidement, vraiment, un mot, puisque c'est Arachtober, Raphaël Janson, votre spécimen que vous tenez particulièrement dans votre cœur.
C'est une espèce qu'on trouve en France hexagonale, qui s'appelle Agelena labyrinthica, sur laquelle on travaille depuis maintenant plusieurs années.
Et à quoi ressemble-t-elle?
C'est une araignée qui fait des grandes toiles géométriques, des grandes toiles non géométriques sur la végétation.
Avec un entonnoir, oui, voilà, c'est ça.
Et une toile avec un entonnoir.
Et vous, oui, Christine Rollard?
C'est vrai que j'avais l'habitude de beaucoup citer la mise humaine variable qui change de couleur en fonction de son support et qui fait partie d'une famille d'araignées qu'on appelle les araignées crabes.
Eh bien, merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Pour prolonger l'écoute, je vous invite à vous tourner vers vos deux ouvrages, Raphaël Janson dans la tête d'une araignée et le vôtre, Christine Rollard, Je n'ai plus peur des araignées. Tout de suite, avec Alexandra Delbo, on parle de métabolisme des graisses. C'est la chronique avec science.
Comment les cellules graisseuses stockent et déstockent l'énergie? Ces cellules ont mauvaise réputation, mais elles ont donc un rôle central. Elles stockent de l'énergie pour plus tard. Ces graisses sont mises à l'abri à l'intérieur de la cellule, sous la forme de lipides. Ce sont les fameux triglycérides, dans ce qu'on appelle une gouttelette lipidique. Et quand l'organisme en a besoin, lors d'un jeûne ou lors d'un exercice physique, on peut reprendre cette énergie. Il faut pour cela faire sortir les lipides de la cellule adipeuse, c'est l'autre nom des cellules graisseuses. Et dans les années 60, a été découverte une protéine particulière qui semblait opérer la vidange des cellules graisseuses. C'est la lipase hormonosensible, HSL en anglais. Dominique Langin est professeur des universités et praticien hospitalier. Il est directeur de l'Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires de l'INSERM et de l'Université de Toulouse.
L'HSL, c'est une des enzymes qui participe à la dégradation. Il est localisé à proximité des gouttelettes lipidiques et va venir se coller sur la gouttelette lipidique pour provoquer cette dégradation. Et ça, c'était son rôle qui était connu jusqu'au début des années 2000. En ayant à l'esprit cette fonction, on spéculait à l'époque que la déficience de l'expression de cette protéine conduirait évidemment à une obésité, puisque si on ferme le robinet, on ne peut pas mobiliser les graisses et donc les graisses vont rester stockées. Et puis, comme le stockage continue en parallèle, l'individu deviendrait obèse. Or, première surprise, en 2000, un groupe japonais caractérise les premières souris déficientes en HSL. Elles ne l'expriment plus du tout. Et ces souris ne sont pas obèses, elles ont le phénotype opposé qui est une lipodystrophie, c'est-à-dire un manque de graisse.
Seconde surprise, en 2014, les premiers individus dépourvus de HSL ont été identifiés parmi des populations Amish de Pennsylvanie. Ils sont porteurs d'une mutation génétique qui rend inopérante la protéine. Et même constat que chez les souris, ils souffrent d'un manque de graisse et pas d'un trop-plein. C'est donc un paradoxe. Comment se fait-il qu'en absence d'HSL, l'organisme ait du mal à accumuler les graisses alors qu'elle est là pour les vider? Cette protéine pourrait-elle avoir d'autres fonctions que le simple relargage de lipides? C'est ce qu'a voulu comprendre cette nouvelle étude parue dans Cell Metabolism. Pour cela, les scientifiques ont voulu savoir où se trouvait exactement cette HSL. C'est un peu la base de la base en biologie cellulaire, déterminer où les protéines se trouvent pour comprendre leurs fonctions. Ils ont eu recours à des expériences in vitro sur des cellules humaines et in vivo chez la souris, en supprimant le gène de la HSL ou en l'ajoutant. Et résultat, la lipase hormonosensible se retrouve dans les gouttelettes lipidiques, ça on le savait, mais aussi, et c'est une surprise, dans le noyau des cellules graisseuses.
C'est toujours difficile d'affirmer que quelque chose est en deux dimensions dans une partie de la cellule. Donc il a fallu vraiment confirmer ces résultats pour se convaincre que c'était vraiment dans le noyau qu'on retrouvait cette HSL. Et dans ce noyau, qui ne contient pas de stockage de lipides, elle est engagée dans des interactions avec d'autres protéines qui sont typiquement nucléaires. Et on a aussi observé qu'elle modulait l'expression des gènes. Donc ça voulait dire qu'elle a plusieurs localisations géographiques dans la cellule, près de la gouttelette lipidique, dans le noyau, et dans ces deux compartiments, elle fait des métiers différents. Un, c'est dans une activité typique enzymatique qu'on avait caractérisée, et puis l'autre, c'est peut-être réguler l'expression des gènes.
Vous entendez la prudence de ce chercheur. On sait que la protéine est localisée dans le noyau, là où notre génome se trouve. Reste encore à prouver véritablement qu'elle module l'expression des gènes. Ce sera la suite en recherche fondamentale. Ce que l'étude montre également, c'est que tout est affaire de dosage. Il faut une concentration précise dans le noyau pour que la HSL remplisse son rôle et que le tissu adipeux se développe de façon harmonieuse. Trop peu, c'est la lipodystrophie avec un stockage défaillant. Trop, c'est l'obésité avec un excès de graisse. C'est une hypothèse intéressante parce que la lipodystrophie et l'obésité apparaissent à première vue comme deux pathologies totalement différentes, mais elles partagent des complications communes. La stéatose hépatique, par exemple, qu'on appelle aussi la maladie du foie gras, le diabète ou encore des risques cardiovasculaires identiques. Mieux comprendre le fonctionnement des cellules adipeuses et les rôles exercés par cette protéine permet à la fois d'envisager une meilleure prise en charge des patients atteints de lipodystrophie et une meilleure compréhension de l'obésité. La prochaine étape, en recherche clinique cette fois, sera de vérifier si certaines personnes obèses présentent un excès de HSL dans le noyau de leurs cellules graisseuses.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Eve Etienne, Noémie Maguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Joseph Schlegel à la réalisation, Olivier Bétard à la technique aujourd'hui, Olivier Arnay. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.